Une semaine d'actualité. François Mazet.
Merci pour ce point sur les dernières informations. Dans cette seconde partie, il sera d'abord question d'Afrique, où la semaine a été riche en actualité. Et dans un quart d'heure, la France ne sera pas oubliée. Nous évoquerons la croissance plate qui menace l'économie du pays. Merci pour votre fidélité. Nous sommes toujours avec notre invité, Guillaume Duval, rédacteur en chef du magazine Alternatives économiques. Alors cette deuxième partie débute également avec un pays où un nouveau Premier ministre a été nommé, c'est la Centrafrique. Mahamat Camoun a été choisi dimanche dernier par la présidente de transition Catherine Samba-Panza pour faire appliquer l'accord de paix de Brazzaville. Son profil avec Laurent Corot.
Le nouveau Premier ministre connaît bien les rouages du pouvoir centrafricain. Ancien directeur général du Trésor sous François Bozizé, il a été directeur de cabinet de Michel Djotodia, le chef de la Séléka, quand celui-ci était à la présidence. Il a su par la suite se maintenir dans le cabinet de la nouvelle chef de l'État, Catherine Samba-Panza, au sein duquel il occupait jusqu'ici le poste de conseiller spécial. Économiste de formation, Mahamat Camoun a travaillé dans le secteur privé, notamment bancaire, avant de rejoindre le ministère des Finances et du Budget. « Je suis connu dans les milieux financiers de la sous-région », a-t-il expliqué à RFI, pour avoir été plusieurs années membre du conseil d'administration de la Banque des États d'Afrique centrale et de la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Est-ce sa proximité avec la présidente qui lui a valu sa nomination? Le fait d'être de religion musulmane a-t-il joué un rôle important dans son choix? Lui-même estime que non et se plaît à se décrire comme un homme d'État ouvert, rassembleur, qui s'attachera à mettre en œuvre les actions de réconciliation dans le cadre de la transition. Ses liens passés avec Michel Djotodia n'ont en tout cas pas suffi à lui valoir le soutien de la Séléka. Différentes voix se sont élevées pour protester contre une décision prise sans consultation avec les rebelles.
À Bangui, le calme revient petit à petit. Ceux qui avaient pris la route de l'exode commencent à rentrer, notamment des musulmans de la capitale. Ils avaient fui en direction du Tchad et du Cameroun. Doucement, certains reviennent dans le quartier du PK5, même si la route vers la normalité est longue, comme on peut l'entendre dans ce reportage de Richard Rifono et David Thompson, diffusé lundi matin sur notre antenne.
Depuis son retour, Adam Moussila prie comme avant dans sa mosquée du PK5 à Bangui. Il y a 6 mois, ce père de famille musulman avait fui les violences pour se réfugier au Cameroun avec sa famille. En juillet, les accords de paix de Brazzaville l'ont décidé à revenir en RCA.
On a détruit chez moi. On nous a évacués et je me suis retrouvé au Cameroun avec ma famille. Nous sommes partis parce que nous, on a été attaqués. On ne sait pas ce qui s'est passé derrière nous.
Est-ce que la vie, elle reprend au kilomètre 5 aujourd'hui?
Oui, elle reprend. Depuis que je suis arrivé, je me sens en sécurité chez moi. Et je suis revenu pour contribuer à l'édification de la paix dans mon pays.
Ce mécanicien retraité, ancien élu local, est rentré en éclaireur, sans ses enfants toujours réfugiés à l'étranger. Pas encore totalement rassuré, le PK5 est une enclave dont les musulmans ont toujours peur de sortir.
Depuis que je suis arrivé, je n'ai jamais sorti. On nous disait que si nous sortons hors de notre enclave, on va être lynchés.
Quelques centaines de musulmans centrafricains sont déjà rentrés d'exil. Des dizaines de milliers d'autres sont encore réfugiés au Cameroun et au Tchad. Adam Moussila veut les inciter à rentrer.
Revenez à Bangui, revenez à RCA, c'est notre pays. Et que la paix revienne, parce qu'après la guerre, après la pluie, c'est le beau temps.
David Thompson, Richard Rifono, Bangui, RFI.
Direction l'Afrique du Sud maintenant. L'héritier putatif de la présidence du pays et de l'ANC, Cyril Ramaphosa, sous le feu des projecteurs et des familles des victimes de la fusillade de Marikana. Vous vous en souvenez sûrement, 34 mineurs grévistes tués par la police en août 2012. À l'époque, le vice-président sud-africain se tenait à l'écart de la politique. Mais en tant qu'actionnaire de la compagnie qui gère Marikana, il avait appelé la police à agir. Son audition lundi devant la commission chargée de faire la lumière sur le drame a été houleuse. Le récit de Lisa Fabian.
Il a du sang sur les mains, il doit démissionner. Des cris et des huées ont accueilli le témoignage de Cyril Ramaphosa, accusé d'avoir encouragé les représailles contre les mineurs grévistes il y a 2 ans. Le vice-président sud-africain assure au contraire qu'il a essayé d'éviter que la grève ne dégénère.
Comme la situation était en train de gravement dégénérer dans les mines, j'ai eu le sentiment qu'il était de mon devoir d'intervenir pour essayer de calmer les choses. Quelqu'un devait communiquer avec les autorités pour éviter l'escalade de la violence qui conduirait à de nouveaux décès. J'ai pensé que nous devions garder la tête froide et espérer que la police puisse éviter qu'il y ait de nouveaux morts et plus de blessés.
Cyril Ramaphosa dément avoir fait pression sur le ministre de la police ou le ministre des Mines. Il nie également avoir donné des ordres aux policiers.
À aucun moment, je n'ai cherché à leur imposer un mode d'action. Je pensais qu'ils feraient simplement ce que j'estimais être leur devoir.
Le vice-président a estimé que l'ONMIN n'était pas seul responsable du drame de Marikana et que des actions collectives devaient être prises pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise.
Il y aura 800 millions d'Africains en 2050, c'est ce que conclut le rapport de l'UNICEF sur la démographie du continent publié mardi. À terme, l'Afrique pèsera même 40% de la population mondiale, Coralie Pierret.
De 400 millions actuellement à 800 millions d'ici 2050. Selon les prévisions de l'UNICEF, la population de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est va doubler. De même, pour l'Afrique australe et centrale, seule l'Afrique du Nord commencera à voir sa population s'équilibrer vers la seconde moitié du siècle. Aujourd'hui, les femmes d'Afrique subsaharienne affichent le taux de fécondité le plus élevé, au Niger notamment. 17 millions aujourd'hui, les Nigériens devraient être 204 millions d'ici 2100. Son voisin, le géant démographique nigérian, comptera 16% de la population africaine en 2015. Près d'un milliard de personnes vivra au Nigeria à la fin du XXIe siècle. Cette croissance de la population, est-ce une opportunité ou un risque? Les deux, répond l'UNICEF. L'enjeu pour le continent, c'est de maîtriser ce boom démographique. Le rapport recommande d'investir en faveur des filles et des femmes, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation, puisque le taux de fécondité pour une femme qui a eu accès à l'éducation est plus faible. Accélérer la transition démographique donc, mais sans oublier la jeunesse. En 2067, l'Afrique aura la population d'enfants la plus élevée au monde, dépassant ainsi le continent asiatique.
Guillaume Duval, votre sentiment sur la Centrafrique? Pour commencer, c'est un pays au sous-sol extrêmement riche, mais qui est plongé depuis un an et demi dans un énième conflit civil. C'est toujours la malédiction des matières premières qui frappe.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que avoir un sous-sol extrêmement riche n'a jamais été malheureusement un vrai atout pour une économie. Hein. Les économies qui se sont vraiment développées au cours des 50 dernières années, c'est plutôt la Corée, le Japon, des pays qui n'ont strictement rien comme matières premières. C'est vrai que les matières premières, ça attire toujours la corruption, les rentiers, les bandits de toutes sortes. Et c'est malheureusement quelque chose qui touche beaucoup non seulement la Centrafrique mais aussi la RDC. Donc c'est un problème qui est très difficile à résoudre. Ça peut être effectivement un atout pour les économies africaines, mais il faut réussir à maîtriser cet atout et à s'en servir sans laisser à la corruption et aux activités rentières le fait d'absorber toute l'économie et toute la société.
Il faut que les pays africains s'affranchissent de ces matières premières, le pétrole pour les uns, les mines pour les autres.
C'est très difficile de s'en affranchir quand on en a, mais c'est apprendre à le maîtriser, et ça c'est aussi très difficile. Les Norvégiens y arrivent à peu près, mais c'est à peu près les seuls à l'échelle mondiale à réussir à avoir des matières premières sans être pour autant, dépendants ils le sont, mais sans que ça engendre trop de rentes et de corruption.
On parle beaucoup ces derniers mois du bond en avant de l'économie africaine, de sa bonne croissance générale. On en fait le continent de demain. Comment est-ce que vous voyez ce décollage annoncé de l'économie africaine ?
C'est un peu ce que disait votre reportage, c'est-à-dire que c'est à la fois une opportunité ce qui s'y passe sur le plan démographique en particulier, mais c'est aussi un énorme risque, un énorme défi, parce que ce n'est une opportunité que si les gens sont bien formés, s'ils trouvent des emplois, si on réussit à développer un état social. On y reviendra peut-être à propos d'Ebola, mais la question de, par exemple, du système de santé en Afrique est toujours une question très difficile. Donc oui, ça peut être une opportunité, mais dans l'immédiat, je crois que c'est quand même malgré tout plutôt un défi difficile à relever, hein, quand on voit les chiffres dont parlait votre reportage.
Un milliard de Nigérians, 200 millions de Nigériens.
Et quand on voit ce qui se passe par exemple aujourd'hui déjà au Nigeria et les difficultés qu'il y a à ce que les différentes communautés cohabitent, les tensions qu'il peut y avoir sur le foncier, les conflits qu'il y a un peu partout en Afrique entre agriculteurs et éleveurs, ça risque effectivement de s'accroître beaucoup dans le futur sous cette pression démographique.
La question de l'Afrique, c'est comment transformer de la croissance en développement ?
C'est comment maîtriser les matières premières et ne pas être trop dépendant de cela. Mais c'est aussi toujours, il y a eu des progrès sensibles, c'est comment construire un État efficace. Ce qui manque en Afrique, c'est pas des acteurs privés, l'initiative privée est débordante. Ce qui manque en Afrique, c'est beaucoup des acteurs publics efficaces, c'est des systèmes sociaux, c'est des systèmes éducatifs. Notamment, c'est indispensable pour limiter notamment cette croissance démographique. Pourquoi est-ce que les gens ont beaucoup d'enfants ? C'est pour être sûr que quand ils seront vieux, il y en aura un ou deux qui auront survécu pour s'occuper d'eux dans des pays où il n'y a pas de système de retraite, où il n'y a pas de système pour s'occuper des personnes âgées dépendantes, etc., etc.
Un pays qui s'est beaucoup transformé, l'Afrique du Sud, qui est traversée par d'importants mouvements sociaux ces derniers mois, ces dernières années. Comment est-ce que vous évaluez l'Afrique du Sud aujourd'hui, 20 ans après les premières élections libres ?
C'est à la fois un immense succès. C'est vrai que la situation n'a pas dégénéré. À l'époque, un certain nombre d'acteurs pensaient de toute façon, ça va pas durer longtemps, etc. Donc l'Afrique du Sud est restée à la fois un État stable et une économie qui fonctionne, même s'il y a des tensions très vives. Bon, l'ANC est confrontée à un problème assez classique, c'est-à-dire qu'il est arrivé au pouvoir comme parti des pauvres, des ouvriers, et il se retrouve de l'autre côté du Manche avec... notamment le cas que vous décriviez, donc des bourgeoisies noires qui apparaît et qui fait tirer sur les ouvriers noirs. Donc savoir comment va évoluer la situation sur le plan politique, si en particulier l'ANC va réussir à conserver cette domination électorale très importante qu'elle a aujourd'hui, ça c'est pas sûr. On peut espérer que le pays réussisse malgré tout à conserver à la fois sa stabilité, ses infrastructures, son économie.
Sept jours en Afrique.
De nombreux pays ont renforcé cette semaine les contrôles aux aéroports par crainte d'une propagation du virus Ebola. Parmi les pays touchés, le Libéria a obtenu des États-Unis la livraison d'échantillons d'un traitement expérimental utilisé sur deux malades américains rapatriés. Ils seront injectés aux médecins infectés par le virus. Un traitement qui n'a jusque-là été testé que sur des animaux, nous expliquait Michel Diaz.
Il ne s'agit pas d'un vaccin, mais d'un traitement qui consiste à répliquer des anticorps qui sont fabriqués naturellement par des souris infectées. Ces anticorps sont alors injectés chez l'homme et permettent à ce dernier de répondre aux attaques du virus. Encore faut-il pouvoir en fournir suffisamment à tous ceux qui en auraient besoin. Mais voilà, ce traitement est expérimental, c'est-à-dire non testé et approuvé chez l'être humain, et le recul nécessaire pour une administration massive est loin d'être suffisant. 6 singes sur 8 ont pu être sauvés. Mais l'ont-ils réellement été, ou est-ce parce que le taux de mortalité du virus Ebola se situe entre 25 et 90% seulement. Existe-t-il des effets secondaires ? D'autres pistes thérapeutiques sont en cours, mais le virus Ebola, peu connu et surtout moins mortel hier qu'aujourd'hui, n'a pas suffisamment mobilisé les industriels pharmaceutiques. Les gouvernements africains devraient être autorisés à prendre des décisions informées concernant l'usage ou non de ces produits, par exemple pour protéger et traiter les travailleurs de santé qui courent des risques d'infection particulièrement élevés, soulignent des spécialistes. Les priorités pour l'instant restent la prévention et une prise en charge très rapide. Se protéger au maximum et soigner les symptômes dès leur première apparition.
Ebola, jusque-là, pas assez important pour les laboratoires pharmaceutiques pour développer un vaccin ou un traitement. Ça vous inspire un commentaire, Guillaume Duval ?
Oui, c'est un commentaire malheureusement assez classique. C'est que dans un monde mondialisé où il y a des échanges très importants, on rentre un peu dans la même logique qui nous a amené, nous, en France ou dans les autres pays développés, à avoir des systèmes de protection sociale. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il faut soigner les pauvres des pays pauvres pour que les riches des pays riches ne tombent pas eux-mêmes malades. Enfin, s'ils ne veulent pas tomber malades, il faut qu'ils acceptent de payer, d'aider les pauvres des pays pauvres à être soignés. C'est cette logique qui a construit la sécurité sociale chez nous. Donc, à un moment, les riches ont fini par comprendre que si les pauvres de France étaient malades, eux-mêmes risquaient plus d'être malades, donc il fallait faire quelque chose. On est à ce niveau là à l'échelle mondiale, et c'est vrai que là on constate une fois de plus que les acteurs privés ne font pas ça spontanément. Il n'y avait pas suffisamment d'intérêt pour les multinationales à s'occuper du virus Ebola. et aujourd'hui ça risque de peser très lourd à l'échelle mondiale. L'autre chose que ça m'inspire, c'est la question qu'on a déjà évoquée, commencé à évoquer tout à l'heure, de la construction des systèmes de santé dans les pays du Sud. C'est vrai que une des tendances qu'il y a eu tout au cours des dernières décennies, ça a été beaucoup de piller ces systèmes de santé pour les pays développés, en France, au Royaume-Uni. On fait venir des infirmiers, des infirmières, des médecins des pays du Sud, d'Afrique en particulier, ce qui contribue à empêcher ces pays de construire leur propre système de santé. Et ça, c'est aussi très grave.
C'est la face cachée de l'immigration choisie.
On pompe les gens les plus qualifiés dont ces pays ont besoin.
RFI vous proposait hier une émission spéciale à l'occasion des 70 ans du débarquement allié en Provence au cours de la Deuxième Guerre mondiale, une opération à laquelle ont massivement participé les soldats de la France libre et notamment les combattants d'Afrique et du Maghreb. Écoutez, Mohand Salah Amrit, il a 93 ans, il faisait partie des 12 vétérans présents dans la délégation algérienne à Toulon et il racontait vendredi matin son expérience à Leila Berato.
Je n'étais pas préparé. On venait de faire la guerre d'Italie. On est arrivé jusqu'à Florence, mais à un moment donné, puis on a embarqué, on est parti directement à Saint-Tropez. On ne s'attendait pas. Mais enfin, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Dès qu'on est arrivé, il y avait les avions allemands qui se venaient nous bombarder. Et malgré ça, on a débarqué, on a combattu durant toute la Provence pour les libérer Marseille.
Dans votre régiment, il y avait beaucoup d'Algériens?
Il y avait des Français aussi. C'était le 7e régiment tirailleurs algériens. Il y avait des Français, il y avait des engagés volontaires. Et il y avait beaucoup de monde là-bas, 7e régiment tirailleur algérien. C'est parce que la base du 7e régiment, c'était Sétif. Alors tout le département de Sétif, Constantine, Bougie, il venait là-bas. C'était, comment dire, hétéroclite.
Voilà, ces commémorations nous amènent dans un instant à revenir sur l'actualité de la semaine en France.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Et c'est ce qu'a fait Archiduc Théodore du Tchad qui, à l'occasion de la fête de l'indépendance, lundi, nous a envoyé un message exhortant les Tchadiens à cultiver l'intégrité et l'amour. Un message que je relaye avec grand plaisir. Rendez-vous également pour vos questions et vos commentaires sur notre page Facebook, Une Semaine d'Actu. Un bonjour à Soumana Iliassou de Niamey, à Amset Saloufal de Bambé au Sénégal où il est professeur d'espagnol, à Oumar Mahamat Aboukari de Djamena et à Olivier Morel de Mani Les Hameaux. Cette émission est à retrouver, je vous le rappelle, en ligne sur notre site internet www.rfi.fr et vous pouvez la podcaster.
Sept jours en France.
Semaine du 15 août oblige, l'actualité a été assez calme cette semaine en France. Ce qui a attiré l'attention, ce sont les chiffres de l'économie publiés ces derniers jours. Pas de quoi être optimiste, avec une croissance nulle au deuxième trimestre, une activité industrielle déclinante et aussi la baisse des prix à la consommation. Patricia Lecomte expliquait jeudi pourquoi il faut s'en inquiéter.
A priori, une baisse des prix peut sembler être une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des ménages, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce recul des prix peut entraîner une déflation, et une déflation, c'est une baisse généralisée et durable des prix, c'est aussi une baisse des salaires, une consommation en berne, et donc une perte de recettes fiscales. Bref, un cercle vicieux qui gèle toute croissance. Un scénario noir pour le gouvernement qui a basé son budget sur une prévision d'inflation de 1,2% sur l'année. Pour le moment, ce n'est pas le cas. La baisse du mois de juillet n'est pas homogène. Si les prix des vêtements ont chuté en raison des soldes de moins de 13,4%, d'autres, comme ceux de l'hôtellerie, des résidences de vacances ou du transport, ont fortement augmenté. Sur un an, le taux d'inflation dans l'Hexagone est de 0,5% contre 0,7% au printemps. Toutefois, cette tendance est préoccupante pour l'Europe. Avec une inflation à 0,8%, l'Allemagne connaît son plus bas niveau depuis 2010. En Espagne, les prix ont reculé de 0,3% en juillet. Quant au Portugal, avec un taux négatif, il est déjà en déflation. Pour la zone euro, au mois de juillet, les prix ont augmenté de 0,4%.
Guillaume Duval, ça fait 2 ans que François Hollande et le gouvernement appellent de leur vœu à un retournement de l'économie. Et pourtant, plus on avance dans le quinquennat, moins on a le sentiment de s'en approcher.
Oui, c'est pas très étonnant parce que effectivement tous les pays européens mènent le même genre de politique qui ne peut aboutir qu'à un résultat de ce type, c'est-à-dire à la fois des politiques de restrictions budgétaires très fortes comme ce qu'on a connu en France, enfin ce qu'on connaît en France. Donc on veut réduire très vite le déficit budgétaire, mais ça a en général comme effet ce qui se produit en France et ce qui se produit en Europe, c'est-à-dire que ça ralentit dans le même temps l'économie et du coup, on n'arrive pas en fait à réduire le déficit hein, donc le déficit de l'État français, il était de 59,4 milliards d'euros fin juin de cette année. Il était de 59,3 milliards d'euros l'année dernière. Donc on n'a rien réussi à réduire, bien qu'on ait réduit fortement les dépenses publiques, parce que les recettes ne rentrent pas quand il y a un ralentissement économique trop fort, ce qui est en train de se produire. Et de la même façon, tous les gouvernements d'Europe, le gouvernement français avec le pacte de responsabilité aussi, cherchent à faire baisser le coût du travail dans leur économie pour gagner en compétitivité. Mais comme tout le monde fait ça en même temps, en fait, personne ne gagne rien parce que les autres le font aussi. Donc, on ne devient pas plus compétitif que les autres. Par contre, le coût du travail, c'est pas simplement un coût, c'est des revenus pour les travailleurs. Et donc, ça fait moins de revenus, que ce soit des revenus directs, des salaires ou des revenus indirects par la protection sociale. Ça fait moins de revenus pour les gens et donc, ils consomment moins. Et comme ils consomment moins, les entreprises n'investissent pas parce que même si elles font des profits, les entreprises, leurs profits se redressent, le taux d'intérêt est très bas, il y a de l'argent, c'est disponible, etc. Mais pourquoi s'endetter pour investir s'il n'y a plus personne pour acheter? Donc on est dans cette situation-là. Jusque-là, la France n'avait pas trop mis le doigt dans cet engrenage du moins-disant social, mais avec le pacte de responsabilité, on a mis le doigt dedans et ça nous amène effectivement à ces difficultés qu'on connaît aujourd'hui.
Alors vous, votre credo, c'est de dire qu'une autre politique est possible. C'est la une du numéro d'Alternative économique du mois de juillet. Vous appelez une politique de gauche. Quelles sont pour vous les grandes mesures qui peuvent permettre de sortir la France et l'Europe de leur léthargie, alors qu'on voit aussi que la croissance allemande a un sacré coup de mou?
Oui, l'Italie est retombée en récession, l'activité s'est contractée en Allemagne aussi, donc les trois principales économies de la zone euro sont à l'arrêt, au point mort. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il s'agit pas de pousser les gens à consommer n'importe quoi, aller au McDo tous les jours, etc., ou à acheter des très grosses voitures. On peut faire des choses qui sont utiles, indispensables pour le futur à la fois de la France et de l'Europe. Monsieur Poutine et ce qui se passe au Proche-Orient nous rappelle combien on est dépendant du gaz, du pétrole, combien on reste dépendant aujourd'hui. Accélérer la transition énergétique, c'est un investissement d'avenir qui est forcément rentable. On peut et on doit investir, dépenser beaucoup plus en France et en Europe pour se passer plus rapidement du gaz et du pétrole, pour accroître l'efficacité énergétique. Je pense que ce type de choses, par exemple, ce serait aussi compréhensible, vendable à l'opinion publique allemande, puisque c'est ça le principal obstacle. C'est qu'est-ce qu'on peut dire aux Allemands pour qu'ils acceptent qu'on relance la machine en Europe. Et je ne suis pas sûr, par exemple, que le fait que leur propre activité se contracte, qu'ils commencent eux-mêmes à avoir des difficultés parce qu'ils n'arrivent plus à exporter en Russie avec la crise ukrainienne, parce qu'il y a un ralentissement chinois, etc., suffisent à les faire sortir de cette religion de l'austérité.
Vous espérez des inflexions dans les mois qui viennent ?
Et il faut espérer, sinon c'est effectivement des problèmes sociaux et politiques qui s'aggraveront. Hein. Ils ont déjà été montrés en ce qui concerne la France. Leur ampleur est déjà apparue avec les élections européennes et la montée de l'extrême droite très très inquiétante et très forte en France. Il faut des inflexions rapides. C'est possible. Monsieur Juncker a déjà annoncé qu'il voulait ce type d'inflexion, un plan d'investissement important en Europe. Il faut qu'on lui donne les moyens de le faire. Monsieur Renzi, qui préside l'Union européenne aujourd'hui, a déjà indiqué à plusieurs reprises qu'il voulait une réorientation très forte des politiques européennes. Ce qu'il y a, c'est que simplement, c'est vrai que pour l'instant, François Hollande, c'est, en tout cas pour ma part, c'est une grosse déception. Donc François Hollande, c'était un proche de Jacques Delors. Pour l'instant, il n'a fait montre d'aucune initiative, un peu d'ampleur et de force sur les questions européennes. Et on aurait vraiment besoin qu'il prenne des initiatives, qu'il parle fortement, qu'il fasse des propositions à l'échelle européenne. S'il ne le fait pas, ni la France ni l'Europe ne s'en sortiront.
Dans le numéro d'Alternative économique de juillet, il y a aussi un dossier sur la Première Guerre mondiale dont on commémore le centenaire, avec deux parallèles assez intéressants. Le premier, c'est que en 1914, on est à la fin de ce qu'on appelle la première mondialisation des échanges et du commerce. Et l'autre parallèle intéressant, c'est que la France, déjà, est en retard sur l'Allemagne d'un point de vue industriel, même si le modèle allemand n'est pas le même à l'époque.
Oui, il ne faut pas sous-estimer, effectivement. C'était une cinquantaine d'années, quasiment, de paix, de quasi-paix, en Europe, entre la guerre de 1871 et 1914, avec un développement économique formidable, des inventions, l'électricité, la chimie qui explose, le cinéma, la mondialisation, des flux financiers qui se développent, les emprunts russes, et toutes ces choses-là, et tous ces fondre parce qu'on a laissé monter les tensions politiques sans les régler à temps. Alors l'Allemagne, c'est une affaire aussi passionnante. Donc l'Allemagne, c'est un des pays qui s'est industrialisé le plus tard en Europe. C'est un pays très agricole qui avait justement des problèmes démographiques considérables, hein, avec beaucoup d'émigration parce qu'ils n'arrivaient pas à nourrir les Allemands, et qui, à partir de 1870, décolle sur le plan industriel. C'est évoqué dans le dossier de notre numéro, mais j'étais tombé sur un bouquin qui avait été fait en 1915 par un monsieur Hauser, qui se posait déjà la question de savoir comment est-ce que ça se fait que l'industrie allemande nous dépasse. Ce qui était assez marrant, c'est que, en dehors de choses qu'on pourrait redire aujourd'hui, une de ses conclusions à l'époque, c'était de dire, oui, nous dépasse, c'est normal, c'est parce que eux, ils n'hésitent pas à faire des produits pas chers et bas de gamme. Ce problème se posait déjà en 1915.
Et je rappelle que vous avez écrit un livre sur l'Allemagne, Made in Germany, le modèle allemand au-delà des mythes. Merci Guillaume Duval d'avoir été notre invité, rédacteur en chef du magazine Alternative Économique. Prochain numéro en septembre. Merci à Sophie Janin qui assurait la réalisation de cette émission. La semaine prochaine, vous retrouvez Sophie Malibaud. D'ici là, la Terre va continuer de tourner et un nouveau journal vous attend d'ailleurs tout de suite sur RFI.